Radio Notre-Dame, RCF.
Bonjour à tous. Comme vous le savez, le pape François étant toujours hospitalisé, son audience générale a été annulée. Aussi, nous vous proposons d'écouter le magazine France-Afrique de Radio Vatican, daté d'hier.
Radio Vatican, France et Afrique.
Amis et fidèles auditeurs, bienvenue à l'écoute de notre programme. Toujours hospitalisé au Djemeli, le pape François utilise moins l'oxygénation à haut débit avec des canules nasales et peut parfois se passer d'oxygénothérapie. Le pape a également passé paisiblement la journée du lundi, alternant prière, repos et travail. Dans une lettre adressée mardi au directeur du Corriere della Sera, Luciano Fontana, en réponse à un message de proximité que celui-ci avait envoyé au pape, le Saint-Père a demandé au quotidien italien de réitérer dans ses pages un appel à la paix et au désarmement. Vous aurez tout à l'heure les détails de l'actualité de l'Église, qui nous conduira aussi en Côte d'Ivoire. Le groupe armé M23 qui affronte le gouvernement de la République démocratique du Congo dans l'est du pays a annoncé lundi qu'il ne participerait pas aux discussions de paix prévues mardi à Luanda. Nous en parlerons de l'actualité sociopolitique sur le continent avant d'accorder la parole à l'évêque de Goma, Mgr Willy Ngumbi, sur la grande crise sécuritaire dans cette région de la RDC et la nécessité d'opter pour des solutions pacifiques à ce conflit. Et nous conclurons l'édition de notre programme avec notre rubrique consacrée aux prises de position des évêques et vie des chrétiens dans le monde.
Radio Vatican, France et Afrique, Christian Lussambé.
Ouvrons cette édition avec le point de presse sur la santé du Saint-Père. Dans la soirée du lundi 17 mars, la salle de presse du Saint-Siège a fait savoir que l'état de santé du pape est stable avec de légères améliorations grâce à la thérapie respiratoire et motrice. Il utilise moins l'oxygénation à haut débit à l'aide de canules nasales et peut parfois se passer d'oxygénothérapie. Le pape a également passé la journée alternant prière, repos et travail. Sur la place Saint-Pierre, les fidèles continuent de réciter le chapelet comme tous les soirs et de porter en prière l'évêque de Rome, demandant l'intercession de la Vierge Marie pour sa santé. Pour la soirée du mardi 18 mars, ce sera au tour du cardinal Angelo De Donatis, pénitencier majeur, de présider le rosaire sur la place Saint-Pierre à 19h30. Dans une lettre adressée mardi au directeur du Corriere della Sera, Luciano Fontana, en réponse à un message de proximité que celui-ci avait envoyé au pape à l'hôpital, le Saint-Père a demandé au quotidien italien de réitérer dans ses pages un appel à la paix et au désarmement. Alors que la guerre ne fait que dévaster les communautés et l'environnement sans offrir de solution au conflit, la diplomatie et les organisations internationales ont besoin de sang neuf et de crédibilité, a souligné François dans sa lettre. Il encourage ceux qui consacrent leur travail et leur intelligence à informer à travers les outils de communication qui unissent désormais notre monde en temps réel. Et les religions peuvent d'ailleurs puiser dans la spiritualité des peuples pour raviver le désir de fraternité et de justice, l'espérance de paix, a conclu le Saint-Père. En ce temps de carême et de ramadan, les communautés musulmanes, catholiques, méthodistes et aristes du village de Kokodi Anono, dans le district autonome d'Abidjan, ont prié ensemble en faveur de la paix en Côte d'Ivoire et partagé dimanche 16 mars un moment convivial à la mosquée d'Anono. Cet événement, désormais érigé en tradition dans ce village, témoigne de leur coexistence pacifique et de leur entente fraternelle. Suivons les précisions de Marcel Ariston-Blé.
À chaque célébration religieuse, ces guides spirituels offrent un exemple édifiant d'unité et de solidarité, incarnant ainsi un idéal de communion et d'intelligence partagée. Ensemble, ils ont invoqué la consolidation de l'unité au sein de leur village ainsi que de la préservation de la paix dans l'ensemble du pays, a expliqué l'imam Dramé Moumine, membre du conseil imamal du village d'Anono.
C'est une rupture qui vient dans la dynamique que nous avons amorcée depuis il y a plusieurs années, qui consiste à renforcer la cohésion sociale et la paix dans le village d'Anono et travailler à la promotion aussi de la paix pour que cela puisse inspirer d'autres communautés communauté.
Le thème de cette rencontre interreligieuse, quelle attitude du fidèle pour une année électorale apaisée, a guidé les réflexions et les échanges. Le père Gilles César Dapéa Dogua, curé de la paroisse Saint-François-Xavier d'Annono et secrétaire exécutif national pour l'œcuménisme, de l'apostolat biblique et du dialogue interreligieux, a salué cette initiative qui, selon lui, contribue à renforcer les liens de fraternité et d'amitié entre les différentes confessions.
Aujourd'hui, nous estimons que nous devons tout faire pour faire prévaloir ce qui nous unit plutôt que ce qui nous divise. Tous les Ivoiriens, tous les habitants de la Côte d'Ivoire sont sans ignorer que nous nous préparons à l'élection présidentielle. Et à chaque fois que ce moment approche dans notre pays, nous voyons les tensions de part et d'autre et autres. Les frères et sœurs, les amis d'hier qui deviennent des ennemis du fait du jeu politique. Il nous faut prendre la hauteur à ce niveau et c'est cet enseignement que nous voulons donner pour dire que nous sommes frères pour la vie.
Marcel Ariston Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Quelques 50 000 personnes ont été déplacées par les affrontements dans le nord-est du Soudan du Sud entre les forces gouvernementales et des rebelles qui font craindre un nouvel embrasement du pays, a dénoncé dans un communiqué Anita Kiki Beo, représentante spéciale adjointe de la mission onusienne au Soudan du Sud. Madame Beo a exhorté tous les acteurs à permettre aux humanitaires d'atteindre en toute sécurité ceux dans le besoin, en particulier les femmes, les enfants et les personnes âgées. Depuis fin février, les violences dans le nord-est ont déplacé 50 000 personnes, dont 10 000 ont traversé la frontière vers l'Éthiopie, indique le bureau onusien de la coordination des affaires humanitaires au Soudan du Sud. Le compte X officiel du président ghanéen John Mahama a été piraté pendant 48 heures et des cybercriminels l'ont utilisé pour promouvoir un projet frauduleux de crypto-monnaie, a confirmé mardi Kwaki Ofosu, le porte-parole de la présidence. Le compte a maintenant été entièrement restauré et nous exhortons le public à ignorer tout message suspect lié à la crypto-monnaie provenant de ce compte, a déclaré Kwaki Ofosu. Les messages postés sur le réseau demandaient aux partisans de Mahama d'investir dans Solana Africa. Les droits humains ont été piétinés au Niger et l'espace civique mis sous pression depuis l'arrivée des militaires au pouvoir en juillet 2023, a déploré mardi Amnesty International dans un rapport documentant la répression contre les voix critiques. Malgré les garanties données par les nouvelles autorités nigériennes, les droits humains ont été piétinés dans la législation et dans la pratique, a regretté dans un communiqué Marceau Sévieude, directeur régional par intérim d'Amnesty pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Les détentions arbitraires sont devenues courantes et les décisions judiciaires ne sont pas respectées, a-t-il ajouté. Elle devait avoir lieu mardi en Angola, mais le M23 a refusé finalement d'y participer, volte-face annoncée lundi. Le conflit dans l'est de la RDC, riche en ressources et frontalier du Rwanda, s'est intensifié ces derniers mois et cette énième tentative de médiation paraît déjà compromise. À Kinshasa, Pascal Moulegua.
Bruxelles a sanctionné presque tous les dirigeants du mouvement rebelle ainsi que quelques responsables rwandais. Des sanctions qui, d'après le M23, compromettent gravement les dialogues directs et empêchent toute avancée. L'attitude de l'Union européenne est qualifiée par les rebelles d'incompréhensible, équivoque et ambiguë. Et par conséquent, les rebelles disent ne plus pouvoir participer aux négociations. Un ordre d'émission avait pourtant été établi, signé par Corneille Nangaa, les leaders de la rébellion. Il prévoyait une délégation de 5 personnes conduite par Benjamin Bonipa, secrétaire exécutif de l'AFC M23. C'est un nom bien connu car inscrit sur la liste des personnalités sanctionnées par l'Union européenne depuis juillet 2024. Les 4 autres membres annoncés étaient des juristes et des administratifs et un responsable militaire. Leur itinéraire était défini, passage par l'Ouganda, vol affrété par l'Angola, séjour de 4 jours à Luanda et retour prévu à Goma le 21 mars. La médiation, qui semble ne pas être au courant de ces revirements, affirme dans un communiqué que toutes les conditions sont réunies pour que les négociations directes débutent ce 18 mars comme prévu. Pascal Moulegua, Kinshasa, Radio Vatican.
Restant en République démocratique du Congo, où la situation sécuritaire et humanitaire, principalement à Goma, empire depuis l'entrée du groupe armé M23 dans la grande ville du Nord Kivu. Les tueries, les enlèvements et les pillages, devenus monnaie courante dans cette région de la RDC, continuent de répandre psychose et angoisse dans les cœurs de la population. Malgré plusieurs tentatives de dialogue avortées pour aboutir à des résolutions pacifiques entre les deux parties au conflit, la situation ne semble pas beaucoup changer. C'est ce que déplore l'évêque de Goma dans un entretien accordé à Radio Vatican après que le groupe armé M23 a annoncé la veille qu'il ne participerait pas aux discussions de paix prévues mardi à Luanda. Pour l'évêque de Goma, la guerre n'est pas la solution à ce conflit, mais plutôt le dialogue, car il est le seul chemin pour aboutir à la paix et à la sécurité en RDC en général, et à Goma en particulier. Écoutons Mgr Willy Ngumbi.
La situation, en tout cas, n'a pas beaucoup changé. Bon, la seule chose, c'est que bon, la guerre n'est plus à Goma. La guerre s'est déplacée vers les autres zones du diocèse. Aujourd'hui, par exemple, nous avons une paroisse à 250 km d'ici, à Walikale. Elle est menacée par l'entrée des troupes donc, du M23 AFC. Ces jours-ci, alors, les gens sont dans la débandade, dans la psychose. C'est même, je viens de parler avec le curé ce matin à ce sujet. Donc, la ville de Goma, pour le moment, il n'y a pas la guerre, mais les questions sécuritaires restent toujours les mêmes, avec les enlèvements, les tueries, les gens ne dorment pas bien la nuit, puisqu'il y a des bandits armés qui entrent dans les maisons pour rançonner les gens. Ils prennent tout ce qu'ils peuvent prendre comme argent, quand il y en a, ou comme téléphone. Enfin, en tout cas, la situation sécuritaire n'est pas encore beaucoup améliorée.
À partir de ce mardi, devraient reprendre les négociations entre la RDC et le M23 à Luanda, mais qui a été annulée en dernière minute par le retrait de ce dernier. Pensez-vous, Mgr Willy, que ce processus de dialogue aurait pu aider ou aiderait tant soit peu à revenir à une situation plus paisible?
Pour nous, le carême, comme je l'ai dit, c'est un temps de conversion, mais pour nous, le prenons comme un temps d'espérance, en fait. Nous croyons toujours aux promesses du Seigneur, mais aussi à tous ceux qui nous donnent l'espoir de ramener la paix, de ramener l'unité dans le pays, dans le Congo, puisque nous sommes divisés pour le moment. Et ce dialogue est parmi pour nous les facteurs d'unité qui puissent aider à résoudre le problème que nous connaissons aujourd'hui dans notre vie. C'est pourquoi nous avons été, beaucoup de gens en tout cas, ont été déçus d'apprendre que bon, le dialogue de Luanda ne peut plus avoir lieu aujourd'hui à cause du retrait du M23. Mais nous continuons toujours à espérer que ce dialogue aura lieu, puisque nous ne croyons pas tellement à la solution militaire. Nous ne voyons pas cette solution militaire, comment elle peut se réaliser. Et puis, on a toujours peur. Si on a connu la guerre, on voit tout ce que ça a détruit, tous les morts qu'il y a eu. On voit maintenant que la vie devient très, très difficile. Donc, les gens vraiment ne veulent pas de la guerre. Et ils aimeraient qu'on arrive à une solution pacifique, qu'on arrive au dialogue, que Kinshasa et Goma puissent entrer en dialogue et afin que nous puissions retrouver le chemin de la paix, le chemin de l'unité du pays.
Excellence, auriez-vous un dernier mot au terme de cet entretien?
Je dois dire à tous nos frères et sœurs qui nous suivent à travers votre radio que la population de Goma actuellement souffre. C'est depuis longtemps qu'on souffre, mais actuellement on souffre encore davantage à cause de la crise économique, mais aussi la crise humanitaire, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la rue, même ceux qui sont rentrés chez eux, ils sont encore dehors, puisqu'ils ont trouvé les maisons détruites, parfois d'autres personnes occupent les maisons. Donc nous souffrons beaucoup, mais nous gardons la foi. Nous gardons l'espérance. Comme je l'ai dit, nous savons qu'après le carême arrive la Pâque. Et ça, c'est notre grande espérance. Et nous demandons à tous nos frères et sœurs qu'ils puissent nous soutenir par leurs prières, mais aussi par tous les moyens possibles, matériels et financiers. Et nous demanderons à tous ceux qui ont un pouvoir, quelque part politique, de pouvoir influencer, de peser pour que le dialogue entre le gouvernement de Kinshasa et le mouvement de M23 AFC et tous les politiques congolais qui sont impliqués de près ou de loin dans cette crise de guerre, qui puissent vraiment influencer pour que ce dialogue ait lieu. Nous pensons que c'est le seul chemin pour la paix et la sécurité dans notre région et pour l'unité du Congo.
Vous venez de suivre Mgr Willy Ngumbi, évêque de Goma en République démocratique du Congo. Il était interrogé par Christian Losambe. Refermons à présent cette édition avec notre rubrique consacrée aux prises des positions des évêques et vie des chrétiens dans le monde. C'est avec vous, Fabrice Baguendekere.
Eh bien, Christian, commençons par le continent asiatique. La cathédrale de Bamako, dans la ville de l'État de Kachin, au Myanmar, a été détruite par un incendie dimanche 16 mars, à la veille de la fête de Saint-Patrick, le saint auquel elle est dédiée. La cathédrale aurait été incendiée lors des opérations menées dans la région par des soldats du State Administration Council, la junte militaire actuellement au pouvoir au Myanmar. Selon les témoignages reçus par l'agence Fides, l'incendie s'est déclaré à 14h de l'après-midi du dimanche 16 mars. Le diocèse de Bamako, créé en 2006, est limitrophe de la Chine à l'est et couvre une zone largement montagneuse de 10 741 km². Avant la situation de conflit actuel, il était habité par une population civile de plus de 407 000 personnes, dont plus de 27 000 catholiques baptisés. Cherchons la vérité, cherchons la justice, c'est l'appel de l'Église de Philippines, alors que l'inquiétude ne cesse de monter dans leur pays. Après l'arrestation de l'ancien président Rodrigo Duterte et sa comparution devant la Cour pénale internationale, divisée entre pro-Duterte et contre-Duterte, les réactions ont engendré une querelle médiatique qui risquerait d'engendrer des violences. Les explications du père Bernard Holzer, religieux assomptionniste en mission aux Philippines.
Des évêques prennent position et ils disent « Allons, en fait, cherchons la vérité, exigeons la justice ». Écoutons ce qui se passe. Et dans beaucoup d'éditos actuellement dans les grands journaux, je vois qu'il y a un appel à attention à la désunion, attention à la haine. Parce que c'est vrai que dans les médias sociaux, il y a vraiment des discours de division et de haine. C'est un camp contre un autre. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de dire, est-ce qu'il y a eu des meurtres? Est-ce que c'était délibéré? Est-ce que c'est... voilà. Est-ce qu'il y a crime contre l'humanité? Et donc, les gens font assez confiance au tribunal international. Ils ont été très frappés par la première séance. Ils disent, mais c'est très professionnel et ça, on ne l'a pas chez nous.
Dans le projet de budget fédéral canadien discuté depuis le mois de décembre dernier, des propositions d'interdiction d'exonération fiscale aux organisations qui manifesteraient leur opposition à l'avortement ont été faites en étendant ce régime à toutes les organisations religieuses. Cette mesure suscite l'inquiétude des églises dans ce pays, sachant qu'une telle disposition aurait un impact important sur leurs activités. Les explications de Benjamin Boivin, secrétaire de rédaction pour Le Verbe, Média catholique basée à Québec.
La clause 429 propose en fait de rendre impossible l'accès au statut d'organisme de bienfaisance et de tous les avantages fiscaux qui sont associés pour les organisations qui font la promotion d'idées anti-avortement, entre guillemets, là, si on veut utiliser le vocabulaire du gouvernement, c'est-à-dire des organisations qui ont une mission pro-vie comprise largement. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est la clause 430, qui, elle, a probablement beaucoup plus d'impact sur la société canadienne. C'est une clause qui vise, en fait, à empêcher l'accès à ce statut d'organisme de bienfaisance et tous les avantages fiscaux qui sont associés à toute organisation dont la mission est de faire la promotion ou l'avancement de la religion. Donc ça concerne au Canada plusieurs dizaines de milliers, en fait, d'organismes. Ça concerne des églises, des paroisses, en fait, des mosquées, des synagogues, toutes sortes d'organisations religieuses qui peuvent notamment offrir à leurs donateurs des reçus d'impôts pour charité, c'est-à-dire que le gouvernement va rembourser une partie des dons que les particuliers vont faire, de manière finalement à encourager l'activité caritative dans la société canadienne. C'est vraiment une politique qui concerne toutes les religions, pas seulement l'Église catholique. Ce sont des politiques qui préoccupent beaucoup de gens.
Merci, Fabrice.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici, très chers auditeurs, que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du programme Français-Afrique de Radio Vatican, Christian Lossambé qui vous l'a présenté, vous dit merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos programmes.